Chapitre 41. Visite au musée de Naples. J'en demande bien pardon à mes lecteurs, mais je suis placé, comme narrateur, entre l'omission et l'ennui. Si jamais, ce sera justement de la chose omise qu'on me demandera compte, si je passe tous les objets en revue, je risque de tomber dans la monotonie. Au surplus, nous en avons fini, ou à peu près, avec Naples antique et Naples moderne. Et nous touchons à la catastrophe. Un peu de patience, donc, pour le musée. Que dirait-on, je vous le demande, si je ne parlais pas un peu du musée de Naples? Le palais des Studis, dont le duc d'Ossuna, vice-roi de Naples, avait jeté les fondements dans le but d'en faire une vaste école de cavalerie, vit sa destination changée par Ruiz de Castro, comte de Lemos, qui décida qu'il servirait de logement à l'université, laquelle y fut effectivement instituée sous son fils, en 1616. Mais en 1670, le palais de Portici, de Caserte, de Naples et de Capodimonte s'étant successivement encombré des précieux résultats que produisaient les fouilles de Pompéi, le roi Ferdinand résolut de réunir toutes les antiquités provenant de la découverte de ces deux villes dans un seul local, où elles seraient exposées à la curiosité du public et aux investigations des savants. À cet effet, il choisit le palais de l'université, laquelle université fut transportée au palais de San Salvador. Le roi Ferdinand fut si content de la résolution qu'il venait de prendre, et la trouva si docte et si sage, qu'il résolut d'en perpétuer le souvenir en se faisant représenter en Minerve à l'entrée du nouveau musée. Ce fut Canova qu'on chargea de l'exécution de ce chef-d'œuvre. C'est quelque chose de bien grotesque, je vous jure, que la statue du roi Ferdinand en Minerve. Et quand il n'y aurait que cela à voir au musée, on n'aurait, sur ma parole, aucunement perdu son temps à y faire une promenade. Mais heureusement, il y a encore autre chose, de sorte que l'on peut faire d'une pierre deux coups. Notre première visite, après notre retour à Naples, fut les objets provenant d'Herculanum et de Pompère. C'était continuer tout bonnement notre course de la veille. Après avoir vu l'écrin, c'était regarder les bijoux. Bijoux merveilleux, d'art souvent, de forme toujours. Nous commençâmes par les statues. Elles se présentent d'elles-mêmes sur le passage des visiteurs. D'abord, ce sont les 9 effigies de la famille Balbus. Puis, celles de Nonius, père et fils, les plus fines, les plus légères, les plus aristocratiques, si on peut le dire, de toute l'Antiquité. Ces dernières étaient à Portici. En 1799, un boulet emporta la tête de Nonius fils, mais on en retrouva les débris et on la restaura. Il y a encore là d'autres statues splendides, un faune ivre, par exemple, la Vénus Callipyge, que je trouve pour mon compte moins belle que celle de Syracuse, l'Hercule au repos, colosse du statuaire Glycon, retrouvé sans jambes dans les thermes de Caracalla, et que Michel-Ange entreprit de compléter. Mais les jambes achevées, et lorsque l'auteur de Moïse eut pu comparer son œuvre à celle de l'Antiquité, il les brisa, en disant que ce n'était pas à un homme d'achever l'œuvre des dieux. Guillaume de la Porta fut moins sévère pour lui-même. Il refit les jambes. Mais les jambes faites, on apprit que le prince Borghese venait de retrouver les véritables dans un puits, à 3 lieues de l'endroit où l'on avait retrouvé le corps. Comment était-elle allée là? Personne ne le sut jamais. Or, il était encore plus difficile de faire un corps aux jambes du prince Borghese que de faire des jambes au corps du roi de Naples. Le prince, qui était généreux comme un Borghese, fit cadeau de ses jambes au roi. Tant il y a qu'aujourd'hui, l'Hercule est au grand complet, chose rare parmi les statues antiques. Il y a encore le taureau Farnèse, magnifique groupe de 5 à 6 personnages taillés dans un bloc de marbre de 16 pieds sur 14. L'Agrippine au moment où elle vient d'apprendre que Néron menace sa vie. Et enfin l'Aristide, que Canova regardait comme le chef-d'œuvre de la statuaire antique. De là, on passa dans la salle des petits bronzes. Malgré cette dénomination infime, la salle des petits bronzes n'est pas la moins curieuse. En effet, dans cette salle sont rassemblés tous les ustensiles familiers retrouvés à Pompéi. La vie antique, la vie positive est là. Pour la première fois, on y voit boire et manger les anciens qui, dans notre théâtre, ne boivent et ne mangent que pour s'empoisonner. Ce sont des vases pour porter l'eau chaude, des marabouts, des bouilloires, des poêles à frire, des moules à petits pâtés, des passoires si fines que le fond en semble un voile brodé à jour, des candélabres, des lanternes, des lampes de toutes formes et de toutes façons, un escargot qui éclaire avec ses deux cornes, un petit bacchus qui fuit emporté par une panthère, une souris qui ronge un lumignon, des lampes consacrées à Isis et au silence, d'autres consacrées à l'amour, et que le dieu éteignait en abaissant la main. Des lampes à plusieurs lumières accrochées à un petit pilastre orné de têtes de taureaux et de festons de fleurs, ou accrochées par les chaînes aux branches d'un arbre effeuillé. À côté de la salle des petits bronzes est le cabinet des comestibles. Ce sont des œufs, des petits pâtés, des pains, des dattes, des raisins secs, des amandes, des figues, des noix, des pommes de pin, du millet, des noyaux de pêche, de l'huile d'aix, des beurrettes, du vin dans des bouteilles, une serviette avec un morceau de levain, un œuf d'autruche, des coquilles de limaçon. On y voit aussi des draps, du linge qui était dans un cuvier à lessive, des filets, du fil, enfin toutes ces choses qu'on rencontre à chaque pas dans la vie réelle, et dont il n'est jamais question dans les livres, ce qui fait que les anciens, toujours vus au Sénat, au Forum ou sur les champs de bataille, ne sont pas pour nous des hommes, mais des demi-dieux. Fausse éducation qu'il faut refaire, fausse idée qu'il faut redresser une fois qu'on est sorti du collège, et qui prolonge les études bien au-delà du temps qui devrait leur être consacré. Puis de là on passe dans la chambre des bijoux. Voulez-vous des formes pures, suaves, sans reproche? Voyez ces anneaux, ces colliers, ces bracelets. C'est comme cela qu'emportaient Aspasie, Cléopâtre, Messaline. Voilà des mains qui se serrent en signe de bonne foi. Voilà un serpent qui se mord la queue, symbole de l'infini. Voici des mosaïques, des antiques, des bas-reliefs. Voulez-vous écrire? Voici un encrier avec son encre coagulée au fond. Voulez-vous peindre? Voici une palette avec sa couleur toute préparée. Voulez-vous faire votre toilette? Voici des peignes, des épingles d'or, des miroirs, du fard, tout ce monde de la femme, mundus mulebris, comme l'appelaient les anciens. Passons à la peinture. C'est la grande question artistique de l'Antiquité. C'était la mystérieuse Isis dont on n'avait pas encore, avant la découverte de Pompéi, pu soulever le voile. On avait trouvé des statues, on connaissait des chefs-d'œuvre de la sculpture, on possédait l'Apollon, la Vénus de Médicis, de Laocoon, le torse, on avait des frises du Parthénon, et les métopes de Célininthe. Mais ces merveilles du pinceau tant vantées par Pline, ces portraits que les princes couvraient d'or, ces tableaux pour lesquels les rois donnaient leur maîtresse, ces peintures que les artistes offraient aux dieux, jugeant eux-mêmes que les hommes n'étaient pas assez riches pour les payer, tout cela était inconnu. Il y avait un piédestal pour les statuaires, il n'y en avait pas pour les peintres. Il est vrai que les fouilles de Pompéi et d'Herculanum n'ont éclairé la question qu'à demi. Jusqu'à présent, on n'a retrouvé aucun original que l'on puisse attribuer à quelqu'un de ces grands maîtres qui avaient nom Timanthe, Euxis ou Apelle. Il y a plus. La majeure partie des peintures d'Herculanum et de Pompéi ne sont rien d'autre chose que des fresques pareilles à celles de nos théâtres et de nos cafés. Mais n'importe. Par cette œuvre des ouvriers, on peut apprécier l'œuvre des artistes. Et parmi ces peintures secondaires, il y a même deux ou trois tableaux tout à fait dignes d'être remarqués. Mais il ne faut pas courir à ces deux ou trois tableaux. Il faut les voir tous, les examiner tous, les étudier tous, car même dans les plus médiocres, il y a quelque chose à apprendre. Les peintures de Pompéi sont à la détrempe, c'est-à-dire exécutées par le même procédé dont se servait Giotto, Giovanni da Fiesole et Masuccio. Le style, à part deux ou trois œuvres de la décadence exécutées par les bouchers de l'époque, est purement grec. Le dessin en est fin, correct, étudié. Le clair-obscur, quoique compris autrement que par nos artistes, est tout à fait à la manière de nos graveurs, c'est-à-dire à l'aide de hachures, et bien senti. La composition est en général douce et harmonieuse. L'expression en est toujours juste et très souvent remarquable. Enfin, les vêtements et les plis sont touchés avec cette supériorité qu'on avait déjà reconnue dans la statuaire antique et qui fait le désespoir des artistes modernes. Nous ne pouvons pas passer en revue les 1700 peintures qui composent la collection du musée antique. Nous pouvons seulement indiquer les plus originales et les meilleures. D'abord, dans les arabesques et dans les natures mortes, on trouvera des choses charmantes. Des animaux auxquels il ne manque que la vie. Des fruits auxquels il ne manque que le goût. Un perroquet traînant un char conduit par une cigale. Tableau que l'on croit une caricature de Néron et de son pédagogue Sénèque. Une charge représentant Aîné sauvant son père et son fils. Tous trois avec des têtes de chien. Les trois parties du monde. L'Afrique avec son visage noir. L'Asie avec un bonnet représentant une tête d'éléphant. Et au milieu d'elle l'Europe. Leur maîtresse et leur reine. Puis au fond la mer. Et sur cette mer, un vaisseau cinglant à pleine voile, à la recherche de cette quatrième partie du monde, promise par Sénèque. Il n'y a pas à s'y tromper, car au-dessous on lit ces vers de Médée. Venient anis, secula esseris, quibus oceanus, vincula rerum latex, laxet et ingent. Patea tellus, tiftic novos, deteget orbes, nec tirisis ultima tule. Médée, acte 2. Maintenant, voici un tableau d'histoire. Il est précieux car c'est le seul qu'on ait retrouvé à Pompéi. C'est Sophonisbé, buvant le poison. Devant elle est Scipion, l'Africain, qu'on peut reconnaître en le comparant à son buste auquel il ressemble. Puis derrière Sophonisbé, Massinissa, qui la soutient dans ses bras. Le tableau est sans signature. Est-ce une copie? Est-ce l'original? Nul ne le sait. Mais en voici un autre sur lequel le même doute n'existe point. Il représente Phoebé essayant de raccommoder Niobé avec Lataon. Au pied de leur mère, Aglaé et Helena, pauvres enfants qui seront enveloppés dans la vengeance divine, jouent aux osselets avec toute l'insouciance de leur âge. C'est un original. Il est signé Alexandre l'Athénien. Puis viennent les fameuses danseuses tant de fois reproduites par la peinture moderne. Des funambules vêtues comme nos arlequins. Les sept grands dieux qui présidaient aux sept jours de la semaine. Diane pour le lundi, Mars pour le mardi, et ainsi de suite, Mercure, Jupiter, Vénus, Apollon et Saturne. Au milieu de tout cela, le morceau de cendre coagulé qui conserve la forme du sein de cette femme retrouvée dans le souterrain d'Arius Diomède, comme nous l'avons raconté. Puis les trois grâces, que l'on croit copiées de Phidias et qui furent recopiées par Canova. Puis le sacrifice d'Iphigénie, que l'on croit une copie de ce fameux tableau de Timanthe dont parle Pline. On se fonde sur ce que, dans l'un comme dans l'autre, Agamemnon a la tête voilée et que, selon toute probabilité, un artiste n'aurait pas osé faire à un maître aussi connu que Timanthe un pareil vol. Puis Thésée tuant le Minotaure. À ses pieds est le monstre abattu. Autour de lui sont les jeunes garçons et les jeunes filles qu'il a sauvés et qui lui baisent la main. Puis Médée méditant la mort de ses fils. Composition magnifique d'une simplicité terrible. Les enfants jouent, la mère rêve. C'est beau et grand pour tout le monde. Un homme de nos jours qui aurait fait ce tableau serait le rival de nos plus grands peintres. Ne commencez pas par ce tableau. Vous ne verriez plus rien. Quant à moi, il y a maintenant 7 ans que je l'ai vu, et en fermant les yeux, je le revois comme s'il était là. Puis une foule d'autres peintures. L'éducation d'Achille, par le centaure Chiron, tableau imité par un de nos peintres, et que la gravure a popularisé. Ariane s'éveillant sur le rivage d'une île déserte, étendant les bras au vaisseau de Thésée qui s'éloigne. Phrixus traversant l'Hellespont, monté sur son bélier, étendant la main à Élée, qui est tombée dans la mer. La Vénus qui sourit, étendue dans une conque. Achille rendant Briseïs à Agamemnon. Enfin Thétis, allant demander vengeance à Jupiter. Ces deux derniers sont 2 pages de l'Iliade. Puis allez chercher encore, regardez dans tous les coins, vous croirez en avoir pour 1 heure, vous y resterez tout le jour. Puis vous y reviendrez le lendemain et le surlendemain, et au moment de votre départ, vous ferez arrêter votre voiture pour rendre encore une dernière visite à cette salle. unique dans le monde. Il ne faut pas s'en aller sans visiter le cabinet des papyrus. Ce serait une grande injustice. Dans mon voyage de Sicile, après avoir visité Syracuse, j'ai conduit mes lecteurs aux sources de la Sianée, à travers les îles charmantes dont les longs roseaux courbaient au-dessus de nous leurs têtes empanachées. Ces roseaux, c'étaient des papyrus. On en faisait une espèce de parchemin étroit et long qu'on déroulait à mesure qu'on écrivait et qu'on roulait à mesure qu'on avait écrit. Eh bien, on trouva 5 ou 6 000 de ces rouleaux, noircis, brûlés, friables. On les prit d'abord pour des morceaux de bois carbonisés et on n'y fit aucune attention. On les jeta, ou plutôt on les laissa rouler où il leur plaisait d'aller. Puis on reconnut que c'était le trésor le plus précieux de l'Antiquité que l'on méprisait ainsi. On recueillit tout ce qu'on put en trouver, et, par un miracle de patience inouïe, incroyable, fabuleux, on en a déroulé et lu à cette heure 3 000 ou 3 500, je crois. Le reste est dans ce cabinet, rangé sur les rayons de vastes armoires. Ce sont 2 500 petits cylindres noirs que vous prendriez pour des échantillons de charbon de bois. Ce fut en 1753 seulement qu'on revint de l'erreur que nous avons dite. On trouva d'un seul coup, au-dessous du jardin du couvent de Saint-Augustin, à Portici, 1 800 de ces petits rouleaux, rangés avec tant de symétrie que l'on commença à y voir quelque chose de mieux que du bois brûlé. D'ailleurs, en même temps et dans la même pièce, on retrouva 3 bustes, 7 encriers et des stylets à écrire. On reconnut alors qu'on était dans une bibliothèque, et l'on eut pour la première fois l'idée que les petits rouleaux noirs pouvaient être des papyrus. On les examina avec soin et on y reconnut, comme on la voit sur du papier brûlé, la trace des caractères qui y avaient été écrits. À partir de ce moment, la recommandation fut faite à tous les ouvriers travaillant aux fouilles de mettre précieusement de côté tout ce qui pourrait ressembler à du charbon. Et comme je vous le dis, il y a là 3 000 manuscrits dans lesquels on retrouvera peut-être ces 4 volumes de Trogue Pompée qui font une lacune dans l'histoire, et ces 3 ou 4 livres de Tacite qui font une lacune dans ses annales. J'avoue que j'avais grande envie de mettre dans ma poche un de ces petits rouleaux de charbon. Comme nous allions descendre le grand escalier des studis, le gardien, qui était sans doute satisfait de la rétribution que nous lui avions donnée, nous demanda à voix basse si nous ne voulions pas visiter la galerie de Murat. Nous acceptâmes, en lui demandant comment la galerie de Murat se trouvait au studi. Il nous répondit alors que, lorsque le roi Ferdinand avait repris son royaume, on avait partagé en famille tous les objets abandonnés par le roi déchu. Cette galerie était devenue la propriété du prince de Salerne, qui, ayant eu besoin de quelque chose comme 100 000 piastres, les emprunta sur gage à son auguste neveu actuellement régnant. Or, le gage fut cette galerie, laquelle, pour plus grande sûreté de la créance, fut transportée au musée Bourbon. Il y a là, entre autres chefs-d'œuvre, 13 Salvator Rosa, 2 ou 3 Vindiques, 1 Pérugin, 1 Annibal Carrache, 2 Gérard des Nuits, 1 Guerchin, les 3 âges de Gérard, puis, dans un petit coin, derrière un rideau de fenêtre, un tableau de 14 pouces de haut et de 8 pouces de large, une de ces miniatures grandioses, comme en fait Ingres quand le peintre d'histoire descend au genre. Une petite merveille, enfin, comme l'Aretin, comme le Tintoret. C'est Francesca de Rimini et Paolo, au moment où les 2 amants s'interrompent et, ce jour-là, ne lisent pas plus avant. Demandez, je vous le répète, à visiter cette galerie, ne fût-ce que pour voir ce charmant petit tableau. Nous sortîmes enfin, ou plutôt on nous mit à la porte. Il était 4h30, et nous avions outrepassé d'une demi-heure le temps fixé pour la visite du musée. Il est vrai qu'à Naples, il n'y a rien de fixe, et qu'avec une colonnade, c'est-à-dire avec 5 francs 5 sous, on fait et l'on fait faire bien des choses. Nous n'avions pas marché 100 pas qu'au coin de la rue de Tolède, nous nous trouvâmes face à face avec un monsieur d'une 50aine d'années, qu'il me sembla, à la première vue, avoir rencontré à Paris dans le monde diplomatique. Probablement je ne lui étais pas inconnu non plus, car il s'approcha de moi avec son plus charmant sourire. « Et bonjour, mon cher Alexandre, me dit-il d'un ton protecteur. Comment êtes-vous à Naples sans que j'en sois averti? Ne savez-vous donc pas que je suis le protecteur né des artistes et des gens de lettres ?» Le faquin, il me prit une cruelle envie de lui briser quelque chose d'un peu dur sur le dos, mais je me retins, me doutant bien qu'il accepterait cette réponse et que tout serait fini là. En effet, pour mon malheur, c'était 3 petits points. À l'autre chapitre, je vous dirai qui c'était.